RMC.
Inbounds the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, c'est votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis. Vous avez l'habitude et de temps en temps, il y a un numéro bonus. Et aujourd'hui, c'est un bonus exceptionnel parce que le sujet est passionnant. Le sujet, c'est le scouting NBA. Et je te remercie, Steve. C'est toi qui vas introduire notre invité parce que c'est ton invité.
Ah, ce soir, je suis content parce qu'on reçoit Lucas Desta, qui est vice-président du Global Scouting du Jazz d'Utah. Merci d'être avec nous, Lucas. Ça va ?
Ça va, ça va. Merci. Hein. Merci de m'avoir invité, Steve. Ça fait quoi ? C'est depuis 2005 ?
2005. Je l'ai connu en 2005 quand j'étais parti avec l'équipe de France A' faire une tournée aux États-Unis. On était parti à Dallas et Lucas, à l'époque, vient de raconter son ascension. Mais il était intendant au Mavs.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es le monsieur scouting du Utah Jazz ?
Oui, mais avec beaucoup d'aide. Hein.
Oui, bien sûr, on n'est pas seul pour ce boulot.
Ça, c'est clair.
Mais tu vas nous raconter tout ça, comment on scoute, quelles sont tes journées, qui tu vises. On va parler de la prochaine draft des Français, de ton parcours. Et honnêtement, j'ai hâte parce que c'est rare d'avoir ce genre d'invité. Des francophones en NBA d'abord, il n'y en a pas tant que ça. Et puis ce genre de métier, c'est toujours passionnant de les découvrir. C'est parti donc pour un numéro bonus spécial Scouting NBA. Donc on est avec Lucas Desta, ton titre en français, ce serait vice-président du scouting pour le Jazz. Est-ce que tu peux nous décrire simplement ton job ? Quelles sont tes responsabilités exactement ?
Oui, là je suis responsable justement du scouting global, qui est justement le scouting dans le monde entier. Mais j'ai aussi des collègues qui sont aussi responsables du scouting de collège et puis des pros aussi, donc la G League et puis les matchs NBA, les joueurs NBA. Donc après, on se rassemble tous et on discute sur les différents aspects, justement, s'il y a des gars qui nous intéressent au niveau international, hors de la draft, par exemple, ou des genre des free agents, des trucs comme ça, des gars comme ça, ou sinon, avec mes collègues, on parle de, justement, les gars de G League, s'il y a des gars qui nous intéressent pour les signer pendant 10 jours, des trucs comme ça.
T'as des espions partout dans le monde ?
Ouais, mais c'est
par exemple, en France, il y a un gars qui regarde tous les matchs de Pro A.
Il est à côté de toi, là.
Il n'est pas venu seul, Lucas, donc ok, j'ai compris.
Ça veut dire que toi, tous tes gars, tous tes scouts qu'il y a dans le monde entier, à un moment donné, ils te font des rapports en disant « Bon, il y a ce garçon-là, il faut que tu viennes le voir. » Et toi, tu te déplaces pour te faire un autre avis ?
Ouais, mais puis pour après aussi faire le compte-rendu à mes boss, au GM, Justin Zanik, et puis au CEO, je ne sais pas comment on dit CEO en français.
CEO,
le PDG en français.
PDG, ouais.
PDG, ok,
ouais.
Voilà, qui est le PDG des Jazz, mm-hmm. Danny Ainge. C'est le maître, lui. C'est le boss. Et puis voilà, bon, moi, après, c'est à moi de lui dire, écoute, Danny, je crois qu'il faut que tu ailles voir ce joueur. Mm-hmm. Voir comme ça. Mais bon, lui, c'est
on va prendre un exemple. On ne prend pas l'exemple Wembanyama, parce que tout le monde le connaît, tout le monde le veut. On prend un Théo Malédon, par exemple. Un mec qui est bon dans son championnat, mm-hmm. qui n'est pas le meilleur du monde, qui a un potentiel NBA. Tu n'es pas sûr d'être le seul sur le coup, mais peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire exactement ? Tu vas décrypter son jeu et évaluer son niveau et dire, voilà, c'est potentiellement un mec que le Jazz peut recruter ?
Oui, mais au moment-là, quand Théo était en train de jouer à l'ASVEL, moi, j'étais avec les Lakers. Donc okay. Là, moi, j'étais juste scout. Et puis après, j'avais des collègues qui étaient des collègues... j'en avais deux, ils sont toujours là-bas. Il y avait un scout espagnol, Antonio, qui habite en Espagne, puis un scout turc qui habite en Turquie. Donc moi, je suis venu parce que, bon, déjà, on avait entendu parler de Théo. Qui joue à l'ASVEL. Et ce qui était impressionnant avec Théo, c'était que, voilà, à l'âge de 18 ans, il jouait déjà avec l'équipe pro de l'ASVEL. Il joue aussi au plus haut niveau, qui était l'Euroleague, quoi, au niveau de l'Euroleague. Donc, c'était assez impressionnant. Et moi, je suis venu ici, je crois, j'ai oublié avec qui ils avaient. Ah, Žalgiris. Ils avaient joué contre Žalgiris, c'était contre à l'ASVEL. Et j'étais impressionné. Et puis après, bon, on a continué à le surveiller, à le voir. Et puis après, c'est juste l'évaluer, quoi.
Et alors, concrètement, est-ce que. C'est un exemple, hein, c'est une question un peu naïve. Tu dis au GM des Lakers, voilà, Théo Malédon, pour moi, il est le cinquième arrière qu'on doit scouter et qu'on doit éventuellement recruter. Ça se passe comme ça ou pas ?
Ouais, mais après, tout dépend aussi de... Parce que, alors moi, je peux beaucoup aimer Théo. Mais après, il y a mes deux autres collègues internationaux, le Turc et l'Espagnol, qui peuvent dire, ah non, moi, je préfère Kylian, par exemple. Mm-hmm. Parce que l'année, là, il y avait Kylian ouais. qui joue en Allemagne. Donc, bon... Et ça, c'est de bons débats, en fait. Parce qu'à la fin, si tu es toujours d'accord avec ton collègue, ben, ça ne va pas aider. Tu vois.
Mais quand tu scoutes un joueur, tu t'intéresses à la partie basket. Mais explique-nous aussi, comment tu fais pour rentrer dans la vie du gamin, ses habitudes?
Exact. Donc, bon, écoute, l'essentiel déjà, c'est de dissecter son jeu, n'est-ce pas? Mais après, bon, et puis après aussi la chose la plus importante.
Dissecter son jeu, c'est ça?
Ouais, ouais. Et puis après, à la fin, bon, si vraiment tu ne l'as pas vu en personne, en live, comme on dit chez nous, live, on va le voir en personne. Genre, tu vas là-bas une heure et demie avant le match. Tu vois, tu le vois s'échauffer. Tu vois bien son corps. Tu vois bien sa taille. Tout ça, c'est mensuration. Et puis après, bon, tu vois le match. Et puis voilà, objectivement, tu l'évalues. Mais après, justement, c'est le côté intel, on appelle ça. Qui, justement, avec tous les contacts qu'on a, que ça soit le coach de l'équipe de France qui l'a coaché depuis les U16, U15, U17, que ce soit le coach de l'ASVEL ou bien un GM ou le coéquipier, son coéquipier, n'importe quoi. Mais tout dépend du niveau relationnel que tu as avec les gens qui sont autour de lui pour avoir les infos nécessaires pour pouvoir prendre une décision sur le gamin.
Donc, parce que toi, un gamin qui est très fort, mais qui à côté a des attitudes qui sont pas bonnes, qui a des attitudes, des mauvaises attitudes, parce que vous regardez quand il y a un changement, son attitude quand il va sur le banc, s'il check le coach, son attitude avec ses coéquipiers. Ouais, ouais. Pour toi c'est encore plus important que le talent de basketteur, le côté humain.
Exact, parce qu'après tu peux, bon, tu vois, côté basket tu le vois, bah, tu peux le voir à la télé, tu peux faire plein de choses, il y a pas de problème. Mais après à la fin, ce qui est le plus important, c'est le côté humain, l'aspect humain du gamin, son, comme on dit chez nous, c'est son background. Comment il a été élevé, famille, sœurs, frères, parents, tout ça, tu vois. Donc pour moi, côté Théo, par exemple, à la fin de la saison, pendant la préparation de la draft, j'ai appelé quelques personnes avec qui j'avais une bonne relation. Et parmi les gars, parmi mes sources, une de mes sources était, je ne vais pas dire le nom, mais c'était un de ses coéquipiers. Donc voilà, ça m'a aidé. Et voilà.
Attends, juste une dernière question. Quand il y a la bascule Europe, NBA, il y a l'argent qui rentre en jeu. Comment tu fais pour détecter chez un gamin la possibilité qu'avec des millions qui arrivent sur son compte, il vrille ou non, il reste focus sur le basket?
Je crois que tout dépend de la manière dans laquelle il a été élevé, je pense. Bon, après, bon, tu sais, la plupart de ces jeunes ici, ils sont assez bien payés, je pense.
Oui. C'est pas pareil que.
C'est clair, c'est pas pareil que quand il vient en NBA, il gagne 5-6 millions par an. Ouais. Il y a une grosse différence. Oui, c'est l'aspect peut-être culturel aussi. Je sais pas. Mais tu sais, je l'ai vécu aussi avec. Je l'ai vu quand je travaillais justement pour Buna, avec Buna, quand Buna avait les gars comme Alexis.
Buna Ndiaye, l'agent numéro 1 français.
Ouais, donc quand lui s'est installé à Dallas, bon, j'étais le premier à l'avoir aidé, j'étais son assistant, lui et Jérémy, parce que Buna, il avait besoin de quelqu'un là-bas sur place. Mais non, je l'ai vu aussi avec là, les gars comme Nico et comme Alexis, tu vois, ils sont bien adaptés. Bien sûr, c'est plus d'argent, mais ils avaient, tu vois, leur famille autour d'eux qui les ont aidés, tu vois, et même Buna aussi qui les aidait qui les guidait en fait, parce qu'avant eux, il avait Gelabal, il avait Turiaf,
Yann, Amy.
Il y avait Yann, mais Yann, il est venu, je crois, c'était en 2006, ouais, c'est vrai, ou 2005.
Je sais pas.
On avait vu la draft ensemble, je crois.
C'est possible.
Ouais, on avait vu à l'hôtel.
Oui, exact.
Ouais, exact.
Je me rappelle.
Voilà.
Tiens, pour qu'on ait une idée juste du boulot que ça représente, avec ton équipe, tu penses que tu supervises combien de joueurs sur une saison, à peu près, un chiffre approximatif?
Je regardais mon tableau aujourd'hui. non, sérieux, j'ai sur mon tableau au bureau, j'avais quoi, 80 et quelques noms.
80 noms?
Ouais.
Sur une saison?
Sur une saison. Et ça, c'est collège et international.
Et tu regardes combien de matchs de basket chaque jour?
Au moins un ou deux. Mais ça peut être collège ou bien pro. Okay. Et la plupart, c'est les matchs Euroleague, des trucs comme ça, juste pour.
Comment tu regardes un match de basket? Tu regardes ça comme un spectateur lambda? Tu as une attention particulière sur un joueur? Tu es très concentré ou parfois tu peux regarder un match comme ça, tranquille?
La plupart du temps, je suis concentré parce que ça dépend qui je regarde. Mais après, d'habitude aussi, je regarde comme ça en tant que spectateur. Ouais. Après, s'il y a quelque chose qui m'attire, ben, parce qu'après, on a un système où on peut remettre en arrière, on peut arrêter, on peut faire plein de choses. Donc moi, d'habitude, je préfère regarder les matchs en live, comme on dit, en personne, que voir en termes de vidéo.
Et tu focuses sur un joueur?
Ouais, Ouais, la plupart du temps. Ouais, si, c'est parce que d'habitude, pendant l'année, j'essaie de voir tout le monde. C'est impossible de voir tout le monde en live. Impossible.
Tu connais tous les joueurs universitaires là, de basket ?
La plupart.
Ouais, alors
et
ça,
donc,
c'est
sur
impressionnant.
Mon tableau, je regardais justement, j'ai 80 et quelques noms. J'ai peut-être 6-7 gars que je n'ai pas vus en live cette année, mais que je les avais déjà vus l'année dernière.
Ok. Donc là, on approche de la draft. Donc, est-ce que la draft de Utah est prête ?
Ben, en ce moment, alors, avant la trade deadline, on n'avait aucun pick.
Oui.
Et là, maintenant, on en a 3.
Avec donc, les échanges, c'est ça ?
On a du boulot à faire.
Ok.
On a
du boulot. Vous avez quoi comme pick ? Ça dépend. Il y a des trucs avec Houston, OKC, tout ça.
Ouais, donc là, maintenant... Donc, on avait fait 2 trades, un avec Toronto et puis un avec Détroit. Donc, celui avec Détroit, ça va être le premier ou le deuxième choix contre Détroit. Enfin, de Détroit. Donc, c'est quoi, 31-32. Mm. Puis après, avec Toronto, c'était le dernier tour du premier... Dernier choix du premier tour. C'était genre 28 ou 29.
Ouais.
Et puis après, avec OKC, moi, je n'étais pas avec Utah, mais c'était le trade avec Derek Favors.
Ok.
Qui justement était top 10 protected, qui ouais. veut dire que voilà, que si on faisait les playoffs, le pick allait à OKC.
D'accord.
Mais comme on ne va pas faire les playoffs, on va garder le top 10, puis après la loterie va déterminer quel choix.
Donc potentiellement, vous avez la possibilité de drafter entre 1 et 10.
Bien sûr.
Donc tu as Zachary Zaché dans ton top 10, par exemple ?
Oui.
Voilà. Alors, question moi de curiosité, quand tu prépares ta draft, tu as 30 tours, hein, est-ce que tu fais un classement par poste ? Si Utah a besoin d'un poste particulier, tu te dis 1, 2, 3, 4, 5, on a ces 5-là, ou par talent ?
Talent.
Uniquement ?
Talent.
Uniquement. C'est-à-dire, tu prends le risque, mettons, je sais pas, tu as besoin d'un meneur, le meilleur meneur, il part, tu prends un pivot, c'est pas grave.
Exact. Okay. Et puis après, bon, c'est pas que moi, c'est genre, on le fait en groupe, et puis tout est fait par... on va tout rassembler. Genre, moi, j'ai mis 30. Alex, il a ses 30. On a tous nos 30. Puis après, c'est par majorité, en fait.
Oui, okay. Willardy a quand même son mot à dire, le coach de Utah.
Non, parce que pendant l'année, lui, il s'occupe qu'à coacher, en fait. Il voit pas les matchs. Par exemple, moi, il y avait quelques mois, j'étais en Europe. Et puis, il m'a envoyé un texto parce que j'étais en Europe. Il m'a dit, tu aimes bien Topic. Et Topic, c'est la hype que les gens... Dont les gens parlent.
Qui a démarré à Megalex et qui a fini à l'Étoile Rouge, mais qui s'est blessé. Ouais.
Nicolas
ouais.
Topic, qui est un meneur, qui est annoncé assez haut.
Ouais,
il est blessé, ne joue
ouais.
pas.
Ouais, ouais. Et puis moi, je lui ai dit, ouais, il est assez bon. Mais ça, c'était quoi, en début d'année, en début de la saison. Donc, c'est pas... Mais bon, voilà, lui, maintenant, après la saison, il va se reposer un tout petit peu, mais après, il va participer au workout, il va venir au workout quand on va ramener les gars. Et il va commencer aussi à regarder les vidéos avec ses collègues, avec ses assistants et tout ça. Mais voilà, quoi. Sinon, pour l'instant, il est occupé.
J'ai plein de questions à te poser sur Topic, une petite parenthèse.
Ah, t'aimes bien Topic, toi.
Ouais, oui, parce qu'on l'a vu en Euroleague. Et puis tout de suite, il a eu des responsabilités. Il s'est blessé, malheureusement. Ouais. Et puis, il a annoncé peut-être aux Spurs aussi pour faire la paire avec Wembanyama. Donc, ça m'intéresse énormément.
C'est choquant, ça.
Parce que les Spurs veulent un meneur. C'est pas un secret. Hein. Ouais. Juste le fait qu'il ne joue pas, est-ce que pour lui, c'est un énorme inconvénient ? Ou pour toi, ça ne change rien ? Tu le prends quoi qu'il arrive ?
Ouais, ça ne change rien.
Ça ne change rien. OK. Il est très haut dans ta liste ?
Ouais.
OK. Tu peux y aller, Steve.
C'est bien ça. Non, je voulais, parce que la philosophie de Utah est marrante quand tu dis on draft au potentiel ou à la qualité du joueur et pas par rapport à des postes, alors qu'il y a eu des drafts des années précédentes où justement on se rappelle tous de Sam Bowie parce qu'à l'époque, il y avait Jedrick Slayer, ils n'avaient pas besoin d'un autre arrière, donc ils sont passés sur Jordan pour prendre Sam Bowie pour prendre un arrière. Phoenix qui a drafté DeAndre Ayton parce qu'ils avaient besoin d'un big man alors qu'il y avait Luka Doncic et Trae Young dans la même draft. Tu vois, il y a des visions différentes. Il y a des mecs qui veulent drafter par rapport à la construction d'une équipe parce qu'il leur manque un big man ou il leur manque un meneur. Vous, c'est on veut le meilleur joueur possible.
C'est clair. Moi, en tout cas, c'est comme ça, c'est ma philosophie. C'est ça que j'ai appris. Surtout quand tu as un choix très haut.
Mm-hmm. Ouais, parce que c'est le risque de rater un très fort et important. Quoi.
Parce qu'après, genre, si tu te dis, ah, attends, le prochain meilleur, le meilleur talent, c'est un meneur. Mais non, je vais pas
le prendre
parce que j'ai Kyant et George.
Oui.
Alors.
Je pense que c'est une erreur.
Donc, t'as ta liste. Tu vas attendre, bien sûr, la loterie pour savoir quel choix t'auras.
Ouais.
Qui a le final cut ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est Danny Ainge ?
C'est Danny Ainge sur tous les tours. Danny Ainge, Justin Zanik, c'est les deux qui ont le final cut. Et puis après, nous, notre boulot, c'est justement de rassembler toutes les infos.
Et de leur donner, quoi.
Les bonnes infos. La plupart du temps, elles ne vont pas être 100% Bon, elles sont toutes vraies, hein, la plupart du temps, parce que tout est en fonction justement des relations que nos collègues ils ont et les informations qu'ils récoltent justement pendant toute l'année. Ben, après, à la fin, c'est, tu présentes ça aux deux boss. Et puis après,
sachant qu'il n'y a jamais de certitude. Tu peux avoir toutes les infos possibles et inimaginables sur un garçon et la transition se passe mal.
Il peut changer. Oui. Il peut changer. Exact.
Concrètement, une draft en live. Donc, Danny Ainge, il a son nom en tête. Le nom, il part avant. Et là, dans l'instant, il doit se décider. Ouais. Maintenant, je passe sur lui.
Il est l'équipe prochaine.
Et maintenant, je passe sur lui. Voilà. Et là, il faut pas se tromper. Quoi. Ils ont la grosse pression ou pas, ou c'est tranquille?
Non, c'est tranquille. Parce que, bon, là, tu sais, Danny, il a fait quoi pendant... Ça fait presque 30 ans qu'il fait ça. Et tu sais, moi, je parlais avec Alex, justement, mon collègue, la draft 2013. Il y avait même Nowitzki qui était assis avec nous dans la draft avec Dallas, justement. C'était l'année où... C'était la première fois qu'on avait... un choix dans la loterie depuis, je crois, 2004 ou 2005. Donc, le dernier qui avait été choisi dans la loterie, c'était Devin Harris. Puis après, bon, on faisait les playoffs tous les ans.
Oui, premier ou deuxième bilan à chaque fois. Donc,
Ouais. Donc, c'était 2013. Et Nowitzki, justement, l'été-là, il a décidé de rester parce que sa femme allait avoir un enfant. C'était le premier enfant et tout. Donc, elle a décidé de passer son été. Parce que d'habitude, lui, il passe
en Allemagne.
En Allemagne. Donc, il est resté... Il était dans la war room avec nous, il était assis à côté de moi et il voyait tout ce qui se passait. Et il me regarde, il me fait, mais c'est quoi ce cirque? Parce que genre, tu vois, il y a notre GM, Donnie Nelson, qui est en train de... Il a son portable, il a un téléphone à gauche, téléphone à droite.
Parce qu'il y a des trades à gérer aussi en direct.
Il y a des trades à gérer, il y a des équipes qui t'appellent.
En direct.
Tu veux faire ça, tu veux faire ceci. Et surtout quand ton pic approche.
Oui.
Donc, quand ton pic approche, c'est là où les équipes t'appellent. Tu veux mon gars pour celui-là, nous? Et nous, notre boulot aussi, avant la draft, pendant quelques semaines, c'est justement de rassembler des infos pour donner à notre boss, pour lui dire, je pense que cette équipe, elle veut trader son choix pour avoir ce joueur. Donc, il y a plein de choses qui se passent.
Okay.
Il y a plein de choses.
Et ils ont, t'as combien de temps pour faire ton choix, là?
Cinq minutes. Premier tour, c'est cinq minutes. Et deuxième tour, je crois que c'est deux. Et
parfois, ça, tu prends les cinq?
Parfois, tu prends les 5 et parfois, tu sais exactement
qui
tu
prends. Après 10 secondes.
Je pense que les Spurs, l'année dernière, enfin, en 2023, je ne suis pas sûr qu'ils aient mis 5 minutes.
Il n'y a même pas besoin d'appeler.
Je ne vais pas te demander ta liste parce que je pense que tu ne vas pas me la donner dans l'ordre. Ouais. Mais est-ce que tu peux donner les 3-4 noms de joueurs universitaires que nous, on ne connaît pas forcément, qui vont être très demandés et qui vont partir au début, là?
Ouais. Bon, tu as le... Ils ne sont même pas universitaires aussi. Tu as les gars de...
Unit League.
De Ignite.
Ouais.
Le Lituanien.
Ouais, tu as le Lituanien, tu as Bouzelis, oui. Tu as Ron Holland. Mais après, tu as bon, le gars de Baylor, tu as Kobe Walter qui est un top 10 aussi.
Ça, c'est où?
Baylor.
Ah, okay,
il est à Baylor. Okay. C'est un arrière qui s'est shooté, en fait. C'est un des meilleurs shooters. Bon, ses stats, il ne le montre pas bien parce qu'en fait, c'est la qualité de shoot qu'il prend. Mais sinon, il est à Baylor. Et puis, tu as Stephen Castle qui est à UConn. Et UConn, maintenant, ils sont dans le Final Four. Donc, c'est un arrière ailier super costaud. Alex, aide-moi, il y a qui d'autre?
Dillington.
Qui?
Le mec de Kentucky, non?
Ah ouais.
Il y a un meneur à Kentucky, non, qui est chaud?
Non, ouais, les deux gamins.
Oui.
Reed Shepard et puis Rob Dillingham.
Dillington, oui.
Exact. Dillingham, tu as les deux là. Qui sont super dynamiques, super, super. En plus, les gars, ils startent pas. Hein. Ils sont pas dans le 5, ils sortent du banc.
Il faut que tu me parles d'un garçon
ouais.
qui est en train de tout arracher à March Madness, qui est canadien, Zach Edey, qui fait...
ça fait 4 ans qu'il arrache tout.
Oui, mais là, il arrache tout aux yeux de tout le monde parce que son équipe...
Ça veut dire que tu le considères pas plus que
non,
que
mais
ça,
parce
non
que, mais parce que...
Moi,
non, mais il faut que tu nous en parles, parce que c'est un garçon qui fait 2-22, 2-23, qui est totalement différent de Victor parce que c'est un gros babard, très costaud, qui se déplace moins bien que Victor. Et il y a beaucoup d'incertitudes sur est-ce qu'il faut que ça soit un top pick, est-ce qu'il peut encore jouer dans cette NBA-là c'est aujourd'hui vrai. Où ça traverse le terrain, ça
le
tire à 3
moderne,
points.
Exact.
Le jeu moderne, explique-nous un peu, c'est un cas bizarre, Zach Edey.
Non, je suis tout à fait d'accord. Après aussi, c'est quoi la différence entre lui et Donovan Klingon, qui a UConn aussi, t'as l'autre.
Oui.
T'as l'autre. Mais l'autre, je pense que l'autre, c'est plus du côté défensif, qui est super, les instincts qu'il a défensivement, les contres, il bouge assez bien, il est un peu plus petit de taille que Zach. Mais Zach, il a ses niveaux, c'est le côté offensif en fait. Zach, il est très doué offensivement. Il a un bon footwork dans le poste. Il a de bonnes mains.
Prise de position.
Il prend des rebonds. Mais c'est pas un gars qui va te contrer, qui va faire ceci. Tu vois, lui, c'est juste côté offensif. Tu vas l'utiliser par 15 minutes, 20 minutes au max.
Est-ce que c'est une sorte de Boban Marjanovic un peu?
Moi, j'allais te dire ce nom, c'était Boban. Moi, je vois pas beaucoup de différence entre lui et Boban.
Donc tu vas pas le drafter.
Bah écoute, s'il est là-bas à 28-29, il faut le considérer.
Après, mais ce qui est bizarre, c'est qu'un garçon comme Boban Marjanovic, qui était en Euroleague et qui a tout arraché en Euroleague, qui faisait des 40 d'évaluation, est arrivé en NBA dans une ère où ça allait plus vite pour lui et qui joue pas. Alors que si il revient en Europe, il détruit tout, Boban. Au post-up, il est injouable. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi il continue à s'entêter à jouer NBA en fait, parce qu'il kiffe.
Boban. Oui. Ouais, parce que je crois que c'est un bon teammate en fait, un bon coéquipier, les gars. Tu vois, tu le voyais à Dallas, Luka était énervé quand Boban a quitté Dallas. Là, c'était son gars, tu vois. Oui.
Alors, parle-nous de Zachary Risacher. Est-ce qu'il est haut dans ta liste déjà ?
Il est assez haut dans.
Il est assez haut dans ta liste.
Moi, j'ai été impressionné cette année de comment il s'est comporté toute l'année. Le mec, il a laissé l'Asvel pour aller à Bourg. Et puis, c'est pas une grosse équipe, mais le mec, il a un rôle assez important.
Finale de l'Eurocup, ça compte par exemple pour
bien
toi?
Bien sûr, bien sûr.
Meilleur jeune de l'Eurocup, ça compte? Il a été élu meilleur jeune de l'Eurocup.
Ah, ok, tu vois.
Aujourd'hui.
Voilà. Alex, tu savais ça?
Alors là, il est en train d'interpeller son agent français, Lucas. On dit que c'est une draft pas très relevée. T'es d'accord avec ça?
Oui, mais à la fin, il y aura toujours il y a toujours du talent quelque part. Je crois que ces gamins, ils vont avoir un peu de succès, je pense. Après, ça dépend où ils finissent et où ils vont jouer, mais je crois qu'il y a quelque chose. Partout. Okay. Mais bon.
C'est pas si faible.
Je pense pas.
Zachary, il a le potentiel pour s'imposer en NBA?
Je pense. Parce qu'il a déjà les aspects physiques. Il est talentueux, il est intelligent. Il a des trucs à améliorer, surtout au niveau physique. Il est pas très physique, justement, quand il joue.
Un peu plus méchant, peut-être.
Voilà. Mais ça, c'est. Je sais pas s'il est timide ou bien c'est son caractère.
Mais j'ai peur de ça parce que le dernier garçon qui était talentueux et qui était gentil, c'était Frank Ntilikina, qui avait pas cet instinct de tueur, tu vois.
Ouais,
et on sait que quand tu arrives là-bas, c'est la jungle parce que des mecs qui veulent jouer NBA, il y en a 60 qui arrivent par saison avec la draft
avec la mentalité américaine
aussi. Et c'est pour ça que Zachary parfois, il a des bribes de non, va dunker, va arracher le cercle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, moi, j'ai cette petite crainte par rapport à ça.
Ouais, non, écoute, alors moi, l'année dernière, je l'ai vu au Hoops Summit.
Oui.
Et c'était un des meilleurs prospects, déjà, dans l'équipe du monde.
Ah ouais.
Parce que j'ai vu l'équipe s'entraîner toute la semaine. Zach, il aura peut-être raté un shoot ou deux, toute la semaine, pendant l'entraînement. Mais après, quand le vrai match est arrivé, en train de jouer contre les top 12 du high school américain qui vont aller à Kentucky, à Baylor, à Kansas et tout ça. Zach était... Je ne sais pas si le mot perdu, mais...
Intimidé.
Peut-être qu'il était intimidé, peut-être qu'il était nerveux, peut-être... Ça compte dans ton... Pas dans ton évaluation finale, quoi.
Mais c'est
un truc à rendre compte, à t'en rendre compte.
J'imagine que tu suis son évolution de ce point de vue-là, par exemple.
Après, tu vois, je me suis dit, ok, peut-être c'est parce que c'est un match. Après, en un match, tu ne vas pas juger le gamin. Mm-hmm. Non. Mais aussi, il y avait LeBron qui était assis courtside parce qu'il y avait le fils de LeBron qui jouait le jour-là.
Bronny.
Ouais, donc tu vois, il y avait tout ça. Mais bon, il y avait la hype partout. Mais voilà, le match, il n'a pas fait grand-chose. Après, U19, je m'attendais à avoir un Zach très fort.
La Coupe du Monde, où il perd en finale, mais il fait pas une très belle compétition non plus.
Il était blessé.
C'est Melvin Ajassa qui fait la meilleure compétition.
C'était Melvin, en fait, justement. Il y avait Melvin, et puis tu avais Zachary Perrin.
Oui.
Qui était pas mal.
Alexandre Sarr était dans l'équipe aussi.
Alex Sarr aussi était bon. Donc voilà, mais bon, après, bon. Tout ça passe, le mec il va à Bourg, il joue,
il se développe,
il voilà. Mais même s'il ne marque pas, mais il fait toujours, je parlais, on regardait le match il y a deux jours là, il impacte
le match 3 contre Besiktas.
Ouais, le game 3, il impacte le jeu.
Alors qu'est-ce qui t'impressionne par exemple dans le match contre Besiktas là? Sans basket, c'est quoi?
Mais l'intelligence, et puis il impacte le jeu dans des deux côtés, que ce soit défensif, niveau défensif ou niveau attaque. Il n'arrivait pas à bien tirer pendant le match, mais après, bon, il fait de bons trucs. Tu vois, il fait dans les dribble handoffs, tu vois, même en défense, il se bat, il n'a pas peur de défendre sur les gars, donc il est actif, quoi. C'est ça vraiment que tu veux. Et puis, moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait que le coach a confiance en lui, en fait. À 18 ans, c'est...
Est-ce que dans ton jugement de valeur aussi, tu prends en compte qu'il joue dans un championnat professionnel, seniors avec des adultes. Ils jouent une compétition européenne. Absolument. Et ça paraît quand même, le niveau de jugement est quand même plus élevé par rapport à la NCAA, qui est quand même, c'est quand même plus faible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Européens qui arrivent en NBA et qui sont en avance sur les autres, sur fondamentaux, sur les enjeux des matchs aussi, sur la pression des matchs. Mais le problème, c'est que numéro un de draft, Lucas, c'est une autre pression.
C'est vrai.
Quand tu es numéro un de draft, les gens t'attendent au tournant.
Tu penses qu'il le sera ?
Il y a beaucoup de gens qui en parlent.
C'est pas sûr encore.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent.
Donc, c'est sûr.
Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mais écoute, après, tout dépend, tu vois. Mais il y a lui, il y a les gens qui parlent de Alex aussi, en numéro un.
Alexandre Sarr.
Ouais. Et moi, je l'ai vu en Australie.
Alors lui, c'est quoi comme genre quelles sont ses qualités si tu compares Rizaché qui a vécu en Europe, en France? C'est quoi les qualités d'Alexandre Sarr?
Même chose que ce que Steven avait dit là. Genre, le mec qui joue avec des adultes, il joue à un niveau assez élevé.
Australie.
Qui est en Australie. Et il joue et il impacte le jeu. Le coach le fait jouer. Moi, je l'ai vu. Moi, je suis allé en Australie en octobre et ils étaient en déplacement. Je suis allé le voir en déplacement. Ils étaient en déplacement à Melbourne et c'était un match assez important. Et c'était un des meilleurs matchs qu'il avait fait.
Il est grand, il est fin, il est grand, mais il court.
Mais c'est un pivot moderne. Alors, il court, il shoot.
Il compte.
Il contre, il fait tout. Mais le seul problème encore avec lui, c'est le manque de physicalité encore. Il a pas de...
Il pète au contact.
Voilà, il a
ça,
peur du contact.
C'est intéressant.
Et tout. Mais sinon, parce que tu vois un gars qui fait quoi, 2m10, 2m12, 7-1, c'est quoi, 2m10, 2m12, et qui, tu vois, qui prend juste 2-3 rebonds, c'est un peu inquiétant. Mais
alors,
c'est
tu
pas,
me dis,
c'est pas alarmant.
Il manque encore de physique. Qu'est-ce que tu penses de Paul Pierce qui a dit « Personne ne pense que les Européens savent vraiment jouer dur, particulièrement les Français. C'est juste du show ?» Où il le pense, et il y a une part de réalité. C'est juste pour se faire, une fois de plus, Rudy Gobert, ou ça n'a rien à voir avec ça?
Ah, donc c'est quoi qu'il a dit, en fait? C'est
il
quoi,
a dit...
Les Français sont soft, en
les Européens,
ils
ne
savent
les
pas
Européens
jouer dur.
Soft.
Particulièrement les Français.
Non,
c'est bullshit.
C'est, ouais, bon, je... Non, mais franchement... Attends, tu vas me dire que... Non, Rudy, déjà, n'est
Rudy,
pas soft.
Rudy, il joue fort, il joue dur.
Evan n'est pas soft. Nico n'est pas soft. Enfin, il y en a des gars.
Victor n'est pas soft.
Yann Maimi, tous ces gars, on peut aller en arrière.
Rony Turiaf,
Rony n'est pas. Ouais. Non,
attends. Donc c'est du.
Mike Pitrus n'est pas soft.
Joachim Noah n'était pas soft.
Jojo n'est pas exact. Non, mais attends.
Après, s'il se base, si sa référence c'est Kylian Hayes, Théo Malédon et Frank Ntilikina, il a quand même une vision un peu étriquée des
c'est
Français
quoi,
en NBA.
C'est quoi le truc en commun qu'ils ont, ces trois gars? C'est des meneurs.
Oui.
Donc c'est un peu. Voilà, c'est différent. Mais si tu vois les gars comme Rony, tout ça, qui sont des ailiers, des pivots et tout ça.
Rappelle-toi du Yak, Yacouba Diawara, Gaillard aussi.
À Miami, il y a Denver qui défendait sur les meilleurs joueurs de l'autre équipe, de l'équipe opposée. Donc c'est...
Il y a deux autres Français qui sont annoncés dans cette draft, donc Tidjane Salin et Melvin Agença.
Ouais.
Alors, à quel niveau?
Avec eux aussi, c'est le potentiel. Hein. Même Tidjane, par exemple, sa cote, elle a monté pendant la saison.
Il a un vrai gabarit de basketteur
c'est
de haut niveau.
Non, c'est impressionnant, si tu vois, à l'âge de 18 ans. Même déjà, nous, on l'avait déjà aperçu un peu l'année dernière quand ils sont venus à Salt Lake pendant le All-Star.
Oui.
Et il a fait le camp de la NBA, là, le Global Camp Basketball Without Borders. Et j'ai emmené Danny Ainge avec moi. Je voulais qu'il voit ces jeunes gars. Et un des gamins qui l'avait impressionné l'année dernière, c'était Tidjane.
Alors, tu sais quoi, j'étais en train de me dire, là, je suis en train de lire dans tes paroles que tu l'as mis assez haut dans ta liste.
En gros, ouais, notre groupe, je crois qu'il a, on l'a assez haut.
Est-ce qu'il y a une vraie hype aujourd'hui du joueur français par rapport à Victor la saison dernière? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce fantasme du « Ah, les joueurs français, il faut les drafter très haut ». Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception parce que les gens s'attendent à récupérer un autre Victor encore?
Je pense que les gens doivent vraiment... Comment on dit en français? Genre, il ne faut pas qu'ils dépassent leurs
attentes.
Ouais, parce que...
Victor, c'est unique.
Ouais, Victor, c'est un monstre. Je veux dire, Victor, c'est une... Victor, c'est...
Tu l'avais bien sûr scouté.
Tu me demandes lui s'il était premier sur sa liste.
Moi, j'ai vu...
À quel âge on voit que ça y est, ça va être un numéro un de draft?
Mais écoute, moi, je l'avais vu quand il avait 14 ans. Je suis
à Nanterre?
À Nanterre. Et un pote à moi, j'étais là, j'étais entre job avant d'arriver aux Lakers et j'ai pris quelques mois de congé comme ça. J'étais avec aucune équipe, j'ai laissé la NBA et puis après pour retourner avec une équipe NBA. Et je suis venu ici pour voir Sekou, Kylian, tous ces gars-là comme ça. Et puis j'arrive sur Paris le jour même. Je dis à mon pote, je suis là, il me fait « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» J'ai dit « Rien », il me fait « Écoute, il y a un gamin de 14 ans, là, est-ce que ça t'intéresse d'aller le voir ?» J'ai dit « Ouais, mais pourquoi il me fait. On y va. Et il appelle le coach, il nous a donné la permission de venir le voir. Et c'était Victor, le mec qui faisait déjà 2m15, 2m je sais pas combien. Et
mais là, tu sais ans. Déjà ou tu as quand même des doutes?
Non, déjà la première personne que j'ai appelée quand j'ai vu le gamin, c'était Bouna. J'ai dit c'est ton petit ça.
Ton gars.
C'était déjà son petit.
Oui, c'était déjà son petit.
Parce que tu vois, Lucas, les vidéos de Victor à 14 ans, on les a tous vues. Ouais. Alors physiquement, bon bah évidemment, c'est un monstre. Bon, il les dépasse tous, il fait ce qu'il veut. Bon, mais bon, c'est encore un enfant. Ouais. C'est-à-dire qu'il sait pas vraiment jouer au basket.
Et jouer avec les gars de son âge, hein.
Oui.
Donc quand ils sont moi, je me dis. Ça me paraît aberrant de me dire à 14 ans, t'es sûr, c'est un numéro 1 de draft parce qu'il est absolument pas fini, ce qui est normal. Et puis, il est pas tôt. Enfin, tu vois, c'est, ça me paraît dingue, moi. Ouais. Toi, tu te dis, lui, c'est sûr, non, il va être très haut dans une draft.
J'ai dit qu'il va être très haut et je me rappelle parce qu'en ce moment-là, je venais juste de faire l'entretien avec les Lakers. Et tout de suite après, mon gars des Lakers m'appelle, il me fait, ouais, c'est bon, tranquille, tu vas bien. Je fais, ouais, je viens juste de voir un gamin de 14 ans. Je crois que dans 4 ans, il va être le premier choix de la draft. Comme ça, je lui ai dit.
Et il t'a cru ou il t'a dit, bon, vas-y, tu me racontes.
Non, mais il m'a dit, ok, c'est quoi son nom? J'ai dit, il s'appelle Victor. Et voilà, je lui envoie une photo.
Wembanyama, par contre, il a eu du mal à le prononcer quand tu
lui as dit. Ouais, j'ai juste dit Wemby. J'ai dit, écoute, on l'appelle Wemby, c'est toi, on fait Wemby. Puis voilà, mais non, c'était vraiment. Mais écoute, après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, tu vois, entre temps. Mais après, non, mais sinon, c'était en fait ce qui était impressionnant, c'était 14 ans, il faisait déjà 2 mètres et quelques, mais sa fluidité.
Dribble entre les jambes, tir à 3 points.
Ouais. Déjà, tout ça, c'était naturel. Oui. C'était naturel. C'est des trucs qui ne s'apprennent pas, je crois.
Il y en a un de 14 ans qui s'appelle Nathan Soliman.
C'est le next one ou pas?
Ben écoute, on l'a vu une seule fois. C'était quoi, l'année dernière? Il avait 13 ans. Et ce qui m'avait étonné, c'était déjà son aspect physique. À l'âge de 13 ans, on dirait même pas qu'il avait 13 ans.
Parce que je l'ai croisé, il était avec son papa au match de Paris Basketball contre Londres, contre les London Lions. Il est grand et tu sens qu'il est quand même un petit peu... Non, qu'il est tanké déjà.
Hein. Non, physiquement, il est impressionnant. Mais écoute, j'ai rien vu encore du gamin. Okay. Genre, je l'ai vu, on était à l'INSEP, on a vu... Et puis, c'était juste, voilà, ce gamin, il a 13 ans. Tu vois presque rien. J'ai vu un entraînement. Et puis après, la dernière fois qu'on était là-bas, il ne s'est pas entraîné. Il avait mal à la cheville, je crois. Et puis après... Ouais, et puis après, voilà quoi.
Il a mis 18 points en National 1 avec le Centre fédéral.
Ah ouais.
Tiens, pour revenir à ton boulot, celui-là, donc tu vas le suivre évidemment. D'ici.
Il est déjà dans le radar.
D'ici ses 18 ans, tu vas voir combien de matchs de Nathan Soliman?
Ouais, déjà équipe nationale. Et puis après, quoi, il va rester à l'INSEP, c'est ça? Ouais, et puis après, autant de matchs, quoi, je sais pas, peut-être. Il a 14 ans, ouais. Donc, 10 matchs par année, par saison.
J'ai l'impression que quand tu fais le boulot de Lucas, j'ai l'impression que...
Il faut aimer le basket.
Il faut aimer le basket d'une, il faut aimer voyager. Et puis je pense que t'es platinum dans toutes les compagnies aériennes et t'es un business hein, quand même. t'as des miles.
Melvin Agença, on a juste évoqué son nom. Ouais. Alors, dis-nous tout.
Ouais, Melvin aussi, pour moi, c'était quelqu'un qui était vraiment impressionnant au niveau physique. Et ouais, niveau physique, il est impressionnant. Et justement, c'est... au U19 que ça a côté monté. C'est là où justement...
Il a eu beaucoup de responsabilités. Il a mis dedans à 3 points graves.
C'est ça. Mais après, c'est ça a toujours été ça, le truc de Melvin. C'était le shoot. Est-ce qu'il est constant? Oui. Est-ce que... Voilà, c'est ça avec lui. Mais sinon, aspect physique, moteur incroyable. Oui. Et il peut défendre.
Et puis, il est dans l'équipe, la meilleure équipe défensive de la Ligue avec Saint-Quentin, qui est un promu, qui fait des résultats, et il a un rôle important.
Et il a déjà des qualités physiques, il a des trucs que tu ne peux pas apprendre, c'est son moteur, tu vois. Et puis après, le reste, tu vois, il a des petits trucs, mais après, bon, il va continuer à progresser. Mais il est intéressant aussi comme prospect.
Dernier prospect français, Oscar Wembanyama.
Le frère d'eux.
Ouais, je ne l'ai jamais vu jouer. Je ne l'ai jamais vu jouer.
Il est à l'ASVEL.
Je sais. Il était à Dubaï il y a quelques semaines là, pour la NGT. Pour la NGT, mais je ne crois pas qu'il a beaucoup joué. Mais moi, je l'ai juste vu comme ça en personne l'année dernière à Levallois quand ils étaient tous allés voir Victor. Ouais. Et c'était mon collègue, justement, Alex, qui m'a dit « Tu vois le gars là ?» Je fais, ouais. C'est le petit frère de Victor.
Tu sais que je ne sais pas si tu es au courant, Oscar, il aurait pu être un très... Enfin, il aurait pu être... c'était très fort au hand.
Ah oui.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Tous les grands clubs en Europe le voulaient parce qu'il était énorme, un joueur de hand. Et je crois qu'il a fait un tournoi interrégion de basket en région parisienne. Et il a éclaté. Il a dit finalement, c'est pas mal le basket. Il a commencé à Nanterre et il a voulu rejoindre Victoire à l'Asvel. Mais bon, ils ont croisé les chemins. Victoire est parti à Boulogne.
Par contre, il n'aura pas le même salaire s'il joue à Montpellier en handball que s'il joue au Lakers.
Oui, c'est sûr. C'est pas la...
Lucas, je te pose une question. Je ne sais pas si tu peux y répondre. C'est pour moi. Okay. Les Spurs, ils ont touché le Graal. Ils ont Victor Wembanyama, mais ils ont une équipe pas terrible pour l'instant. Mm-hmm. On sait que ça va bouger, ils vont faire des transferts, ils vont avoir probablement un choix assez haut.
Ouais.
Qui doivent-ils drafter ? Est-ce que si toi, tu te mets dans la position de ton homologue des Spurs, tu prends qui ?
Un meneur.
Alors, un meneur, ça c'est une chose. Est-ce que tu prends un meneur d'une draft ou est-ce que tu essayes de faire un échange ? Avec un joueur qui existe, enfin qui existe, qui joue déjà et qui a une cote.
On parle beaucoup de, il y a eu les rumeurs Trae Young à San Antonio, monter un trade pour récupérer Trae Young.
Ouais.
Toi, tu partirais sur un meneur de drafté cette année?
Ouais, pourquoi ne pas commencer avec, pourquoi ne pas avoir une équipe très jeune et puis après tu.
Parce que Victor est impatient, Lucas. Victor veut gagner rapidement.
À 20 ans. Mais t'as vu l'équipe qu'ils ont ?
Oui.
Il n'y a pas d'espoir. Hein.
Oui, je sais bien. Mais est-ce que lui a cette puissance et cette force de persuasion pour mettre un peu de pression en disant « Attendez, mettez-moi des mecs où je veux être capable de jouer un peu les playoffs. » C'est possible de, est-ce que LeBron était capable de le faire ? Est-ce que Victor a le pouvoir de faire ça, de mettre la pression sur une franchise déjà au bout d'un an ?
Peut-être pas l'année prochaine, mais je crois dans 2 ans, oui.
Oui.
Pour les emmener avec l'effectif qu'ils ont maintenant. Et puis après, si peut-être t'ajoutes, tu prends un autre choix de la draft cette année, et puis après, peut-être, tu fais quelques trades, parce que bon, je ne sais même pas s'ils ont beaucoup d'assets, là, les Spurs. Ben non, c'est tout. Donc, assets, c'est genre... assets, genre, des joueurs que tu peux échanger, que tu peux aider. Keldon aussi, ouais, lui, maintenant, c'est quelqu'un qui ne joue pas beaucoup.
Oui, donc qui est sur le banc maintenant.
Ouais.
Toi, tu ferais quoi ? Tu as une idée précise ou pas ? Plutôt un prospect ou un...
C'est ma compétition. Moi, je ne veux pas qu'il gagne.
Est-ce que le meneur de Kentucky, là, je n'ai pas le nom, ou Nikola Topić, ça te semble assez fort pour améliorer tout de suite le niveau des Spurs ?
Pour bouger un tout petit peu comparé à cette année, bien sûr. Bien sûr. Et ils ont les choix, tu vois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme Stephen avait dit, ils peuvent soit faire, même toi tu m'avais dit, soit faire un trade ou bien soit drafter. Et puis, parce que, écoute, l'équipe elle est construite par trois méthodes. La draft, les trades, et c'est quoi le troisième ?
Je vais me le dire, c'est pas moi.
Ouais, je sais.
Quoi, les free agent.
Et la free agency, exactement. Donc, San Antonio, je ne sais pas combien de gens veulent aller, combien de free agents veulent aller à San Antonio.
C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas un gros marché, c'est compliqué.
C'est ça.
Et vous avez le même problème à Utah aussi.
Ouais, mais on va changer ça.
Vous allez faire devenir Utah un gros marché ?
Pas un gros marché, mais c'est attirant. Hein. J'aime beaucoup cette ville. Moi, je ne m'attendais pas à ce que je...
Mais Boris Dio adore, je crois qu'il a encore une maison.
Bobo, il a toujours sa maison là-bas. Lui et moi, on a passé
Rudy,
nouvel an.
Rudy a adoré.
Il a toujours sa maison.
Oui.
Donc, Salt Lake, c'est pas... En plus, t'as Park City qui est un des lieux les plus beaux, les plus...
Touristiques.
Hein ?
Touristiques.
Ouais, touristiques du monde. Hein. T'as les gens du monde entier qui viennent pour faire du ski.
Tu fais du ski, toi ?
Non, je fais du ski nautique.
Ah, tu fais du ski nautique. Et dis-nous un mot de Cooper Flag.
Ouais. Oh.
Ça aussi, phénomène.
Alors, lui, ou pas ? C'est un phénomène annoncé pour 2025.
Ouais. 2025. Je ne l'ai pas encore vu encore en live.
Faut y aller là.
Mais je le verrai la semaine prochaine. Au
Summit.
Ils ont une team assez forte, une classe qui est assez forte, mais même celle internationale, elle est assez forte aussi. Y a plein de jeunes qui sont d'origine genre des îles,
oui.
Et ou bien aussi d'origine africaine, mais qui sont nés, qui ont grandi aux States. Donc, ça va être super, super intéressant. Qui vont jouer pour l'équipe internationale. D'accord. T'as Zoum Diallo, t'as Boateng qui est ghanéen, je crois. Zoum, il va à Washington. Puis tu as AJ Dibanza qui est un phénomène aussi. Il est congolais-jamaïcain.
Congolais-Kinshasa ou congolais-Brazzaville ?
Je crois qu'il est Kinshasa.
Ah, c'est bien.
Ouais. Et donc, non,
c'est
donc,
le cœur qui parle aussi.
Ouais, donc je regardais l'effectif justement. Ils ont une bonne team, là, l'équipe du monde. Là.
Le Summit, c'est là où s'est révélé Dirk.
Dirk s'est révélé là-bas. Le joueur préféré de Steven, là.
Qu'est-ce que ça vaut Bronny James? Parce que bien sûr, il y a le papa.
Ah, t'as vu qu'il
a dit qu'il se présentait à la draft.
Ouais, mais, à la draft.
Mais avec l'option aussi de retourner à l'école et de se transférer. Parce que le coach de USC, il est allé à SMU.
D'accord.
Et alors, pour toi, il est mûr pour la NBA?
Physiquement, oui, mais je ne sais pas s'il a fait grand-chose encore. Pour... Ouais, parce qu'il a eu le problème au cœur déjà là, au début de l'année. Mais je pense que, juste même pour la hype, et je pense même pour le...
Tu penses qu'une franchise, rien que pour la hype, parce que c'est fils de LeBron, va drafter Bronny James?
Je pense.
Tu pourrais le faire, toi?
Non.
Il n'est pas dans ton radar?
Ben, parce que je n'ai encore rien vu. Mm-hmm. Je veux dire, j'ai vu assez l'année dernière.
Moi, je l'ai vu à Nanterre quand il est venu jouer. Là,
ouais, tu sais, quand il a fait le truc.
Athlète, hein, plus. Hein. Il avait mis un poster hors norme.
Pour moi, ce n'est pas un meneur et ce n'est pas un arrière. Oui. Ce n'est pas un 2. Un 2, il tire pas assez bien pour être un 2. Il n'est pas assez grand pour être un 2.
Il est petit. Hein.
Et pour être aussi un meneur, il n'a pas vraiment les instincts d'un meneur non plus. Mais et voilà, c'est un combo, tu vois. Il est coincé entre les deux positions. Mais après, bon, il a encore pas fait grand-chose. Mais je pense que pour moi, si... Bon, tu vois, il a encore le temps. Tu sais combien il gagne de NIL déjà? C'est le joueur le plus payé en NIL. Je crois qu'il gagne 6 millions, je crois, un truc comme ça.
Bronny James?
Oui.
Non.
En NIL.
C'est quoi NIL?
NIL, tu vois, c'est le nouveau deal maintenant qu'ils font au collège.
Avec le droit d'image et tout ça?
Non, ouais, exact. Ouais. Donc les joueurs sont payés.
Oui.
Donc,
c'est pour ça que le mythe s'arrête aussi. Parce que,
le mythe des joueurs universitaires qui ne gagnent pas d'argent, c'est fini?
C'est fini, ça.
Ils gagnent 6 millions, Bronny James.
C'est ce qu'ils ont mis, c'est ce que j'ai entendu. Mais voilà, mais ils gagnent assez. Hein. Non, ils gagnent assez, en fait. Ils gagnent beaucoup.
Mais est-ce que tu penses qu'il y a une franchise qui, en voyant Bronny James sur la liste, est encore dispo? Dans un coin de leur tête, dit OK, si on draft Bronny, peut-être qu'on a une chance d'avoir LeBron, non?
Peut-être, il y a 30 équipes. Hein.
Oui.
Donc,
dis-moi, toi, est-ce que tu le fais ce deal? Si on te dit, non. Tu as Bronny et LeBron pour deux saisons au Utah Jazz, tu dis oui ou non?
Non.
Pas intéressant sur le long terme.
J'ai déjà gagné un titre avec LeBron en 2020.
Il était là dans la bulle. Il était scout de Lakers dans la bulle.
Ça me suffit.
T'as deux titres, deux bagues. Mais il y en a qu'une qui compte, hein, quand même. Il y en a qu'une qui compte. Hein.
2011.
Bien sûr, mon grand.
Les maths. Dallas, bien sûr.
2011. Mais non, et je pense que pour Bronny, justement, c'est pour continuer la hype, c'est de changer de fac, justement. Parce que déjà, le coach est parti à SMU. Et le coach de Arkansas, il va aller à USC et c'est pas ce coach-là qu'il avait recruté. Donc je pense juste pour l'hype, je vous donne un exemple, qu'il aille à Ohio State
pour la hype.
Mais ouais, c'est là où LeBron, ils sont d'Ohio. Oui. Tu vois, LeBron c'est un grand fan d'Ohio State du programme de foot américain. Donc voilà quoi. Parce qu'il avait même visité Ohio State déjà avant d'aller à USC, Bronny. Donc,
beaucoup de joueurs du championnat de France, ouais, juste avec David Lighty, Thomas.
David Lighty, exact. Le meneur, là, comment il s'appelait meneur qui joue en Europe, là, maintenant, j'ai oublié. Mais sinon, bon, t'as D'Angelo Russell, t'as tous ces gars-là qui sont.
T'as Greg Oden aussi.
Greg Oden qui aussi, maintenant, il est assistant coach avec l'ancien coach de Ohio State.
Alors, dis-moi, tiens, on va peut-être finir là-dessus. Greg Oden, donc, ça fait partie des numéros 1 qui n'ont pas percé. Alors, lui, pour blessure, pas parce que son niveau était pas bon, mais ça arrive aussi, des Olo Okwandi, il y en a plein, des Kwame Brown.
Anthony Bennett.
Est-ce que c'est ton cauchemar ou est-ce que finalement, c'est tellement professionnel que c'est pas grave? Si un jour, tu te trompes, bon, ben, bien sûr, c'est un accident, mais est-ce que ça te fait cauchemarder ou pas?
Oui et non, parce qu'après, je me dis que j'ai fait tout le boulot pour arriver où je suis arrivé. Et puis après, ben, tu sais, les gens peuvent faire une erreur, hein, je veux dire. Mais bon, après, comme même cette année, maintenant, les gens disent que ce n'est pas une grosse draft ou quoi que ce soit. Après, les gens disent, je ne veux pas être l'équipe qui aura le premier choix là.
Oui.
Ah ouais.
Après, tu vois, t'as peur de...
Ah ouais, carrément.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui... Après, bon.
Ouais, si tu as le premier choix, tu le prends quand même, hein.
T'as le premier choix, tu le prends.
tu peux nous dire qui sera ton premier choix ou vraiment c'est impossible à dire?
Pour moi.
Si toi, tu as Utah, tu as le premier choix, tu prends qui? Tu peux le dire ou c'est vraiment un truc qui ne dit pas? Tu vas nous le dire par contre off.
Peut-être.
On dira rien, t'inquiète pas.
Lucas, avant de terminer le podcast, il faut quand même que tu nous racontes ton parcours et ton histoire, parce que c'est complètement fou. Né en Éthiopie, moi je t'ai connu à Dallas.
En 2005.
T'étais en 2005. C'est pas péjoratif de dire que, on le dit en rigolant, mais tu donnais les bouteilles d'eau, tu donnais les serviettes.
Et je nettoyais le parquet.
Et tu nettoyais le parquet dès qu'il y avait un peu de sueur, parce qu'en NBA, il ne faut pas que le parquet glisse, t'as un mec qui est là qui nettoie le parquet. Et aujourd'hui, tu te retrouves à ce poste exceptionnel. Il faut que tu nous racontes. On a tendance souvent à dire, le rêve américain. Ouais. Mais encore une fois, on a un exemple devant nous. Donc raconte-nous comment ton ascension.
Non, je suis vraiment, je suis témoin de ça. Hein. Je suis témoin de ça parce que, bon, écoute, voilà, je suis né en Éthiopie, père grec-éthiopien, mère italienne-érythréenne. Les deux se sont rencontrés à l'école française. Et c'est pour ça que moi aussi, avec mon frère, on est allé à l'école française, école franco-éthiopienne en Éthiopie. J'ai grandi, à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai eu un panier de basket pour Noël. Et c'était moi et puis des copains. À nous, on avait le même cadeau. Et puis, c'est là où l'amour du basket a commencé pour moi. Donc, je joue au lycée, j'ai grandi, mais je joue aussi au tennis parce que mon frère, il joue au tennis, je joue au foot aussi. Mais après un moment, je devais choisir. Et le basket était plus facile pour moi parce que déjà, j'étais assez grand, je shootais assez bien. Et puis après aussi, j'avais les opportunités d'aller aux States pour voir la famille du côté de mon père. Donc, j'allais souvent à Dallas, passer l'été là-bas avec la famille ou quoi que ce soit. Et au moment-là, je crois, la dernière fois que j'étais là-bas avant de bouger aux États-Unis, c'était en 2000. Et mes parents, ils étaient déjà divorcés. Et pendant l'été, justement, je jouais tous les jours dans des tournois. Et il y avait des coachs du lycée qui voulaient me recruter. Et ça, c'était mon rêve, moi. C'était jouer en NBA. Moi, c'était NBA tous les jours, basket. Je ne voulais même pas aller à l'école. Des moments, non, franchement, c'était à ce niveau-là. Je dormais avec un ballon. À l'école, pendant les récrés, on faisait déjà les équipes en classe.
D'accord.
Pour aller jouer à la... Oui, parce qu'après, tu vois, tu n'as pas assez de temps.
Tu ne peux pas perdre de temps.
Tu gagnes, tu restes. Oui. Tu perds, tu sors. Oui. Et voilà, il y avait tout ça. Mais après, donc c'était 2000 et j'étais recruté là-bas pour le lycée pour jouer. Mais ma mère ne voulait pas. Tu vois, parce que ma mère, elle voulait qu'on termine le lycée français, l'école en Éthiopie. Puis après, faire ce qu'on voulait. Puis après, en première, j'ai piqué une crise. Parce que j'étais vraiment fort au basket là-bas chez moi en Éthiopie, mais il n'y a pas les moyens. Il n'y a personne qui vient te voir, te dire viens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai piqué une crise, j'ai dit je ne veux plus aller à l'école. Et tout. C'était un contrôle de Sciences Éco, hein. Je me suis levé. J'ai rendu la copie blanche à ma prof.
Terminé.
Elle m'a regardé, elle m'a dit ça. J'ai fait ouais, je ne veux plus aller à l'école. Appeler mes parents. Et en fait, c'était que bon, voilà, je voulais au moins essayer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé en Italie parce que du côté de ma mère, je suis italien. Et mon père est venu avec moi. Parce qu'en fait, mon père aussi, quand il était jeune, il avait fait des essais pour la Juve au foot. Et il a été pris. Mais mon grand-père lui a dit, ça, c'est les mentalités africaines. C'est genre, ils veulent que tu sois docteur, ingénieur, astronaute et tout ça. Eux, ils ne croient jamais en...
Le sport, l'art.
De l'argent au sport, ça, voilà, oui. Exactement. Et ça, je te parle dans les années 60, 70, quoi, tu vois. Et donc, mon père, son rêve a échoué aussi à cause de ça, parce que mon grand-père, il croyait pas en ça. Non, mais mon père, il a fait non, moi, ça n'a pas marché, je veux que ça marche pour Lucas.
Fils.
Et donc, 16 ans, 17 ans, j'ai fait des essais dans des équipes pro B, pro C, et puis même A prime, comme ça. Et à la fin, le problème, c'était quoi? C'est de trouver aussi une école en même temps, une école française. Mais à la fin, j'ai réussi à trouver un club qui aussi avec l'école, c'était à Turin. Donc, je vais à Turin, 2001. Ça marche un tout petit peu, mais après, au niveau école, ils étaient très sévères avec moi aussi, parce que moi, je ne voulais pas continuer l'école.
Non, tu maîtrises l'italien à perfection.
Ouais, mais c'était l'école française.
Ah, ok.
Donc, tu vois, c'est ça aussi
ouais,
le problème.
Mais tu sais comment pour parler aux filles dans la rue, tu es obligé de parler italien.
Non, bien sûr, je parle italien. Ah ouais. Je parle six langues. Non, c'est vrai, c'est vrai.
Six langues.
Ouais, six langues. Donc, et puis après, ça n'a pas marché. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, je retourne en Éthiopie, je retourne au lycée. Et c'était pas facile parce que j'ai dû retourner pendant que l'école avait déjà commencé. Mmh. Et ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Donc, je reviens, je suis en premier. Et mon père qui fait, non, c'est pas grave. Je connais des gens là-bas, on va le remettre dedans. Il va continuer l'école là-bas. Et puis après, il nous a dit qu'il va terminer son bac au lycée français en Éthiopie. Puis après, de là-bas, il fait ce qu'il veut. Okay. Je vais là-bas, j'ai promis à tout le monde, voilà, c'est fini, je finis l'école. Et puis après, on verra, quoi. Donc, j'ai eu mon bac. J'ai prouvé à tout le monde que j'ai eu mon bac et tout. Tu vois, les gens, ils étaient choqués aussi en même temps. Et j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis avec mon frère pour avoir la green card, en fait.
Oui.
Donc, on choisit Dallas parce qu'il y a les frères et sœurs de mon père qui sont là-bas. Et c'était plus simple pour justement pour continuer le procès. Et puis après, pour aussi pour que la vie soit un peu plus facile. Donc, tu vois, ma mère, elle a dit, bon, pendant un an, je vais vous payer l'appart. Donc, elle nous paye l'appart là-bas.
Et ton frère après... ensemble dans l'appartement.
Ouais, mon
la
frère.
Belle vie.
Et alors, vous faisiez quoi? C'était quoi les petits boulots?
Donc, les petits boulots, parce que déjà, on n'avait pas encore le permis de travail. Ouais. Donc, tu arrives là-bas, ils te donnent un visa spécial. Ils te disent, voilà, dans 6 mois, vous aurez le permis de travail. Donc, mon oncle, le frère de mon père qui avait une compagnie et tout. C'était une compagnie de nettoyage. Donc, nous, on allait nettoyer des églises, des trucs comme ça pendant les week-ends. Donc, ils nous donnaient un peu d'argent de poche. Mais le loyer et tout ça, c'était payé par ma mère pendant un an. Elle nous payait tout ça. Puis après, après 6 mois, je reçois mon permis de travail. Et entre-temps, je suis en train de jouer. Hein. Genre, je joue dans des rec leagues, ça s'appelle. Okay. Et je joue, je m'entraîne, je suis enfant parce que je ne peux pas encore aller à l'école. Donc, après 6 mois, je reçois le permis de travail. Et mon oncle me fait, écoute, si j'étais toi, je vais chercher un boulot à l'ambassade, à l'aéroport.
L'aéroport.
À l'aéroport. Et je fais, pourquoi il fait ? D'abord, l'aéroport de Dallas, c'est un des plus gros au monde. Tu parles 6 langues. Ça peut t'aider. Peut-être tu ne sais jamais qui tu as rencontré là-bas. Je dis, ah, ok. Donc, je prends le boulot. On m'embauche tout de suite dans un magasin comme ça.
Ah, tu vois, dans genre duty free, un magasin dans l'aéroport. Ouais, ouais.
Et okay. Puis après, six mois après, je deviens genre manager du magasin. Et janvier 2005, ça c'était comme si c'était hier. Hein. Janvier 2005, j'ouvre le magasin, il est 6h du matin. Alex, celle-là, tu ne la connais pas, je crois. Hein. Ah, tu vois, je connais. Ok. Donc, j'ouvre le magasin et il est 6h du matin, tu vois. Donc, il y a un gars qui s'approche, qui me demande où est le Starbucks, tu vois. Mm. Je le vois, je dis, attends, je le connais quelque part, ce gars. Il avait un chapeau et tout. Je dis, merde, je le connais quelque part. Et je lui ai dit où était le Starbucks. Après, il est parti. Après, j'ai dit, attends. Ça me dérangeait. J'ai dit, attends, je le connais quelque part, ce gars. Il revient. Et j'ai dit, s'il revient, je vais au moins lui demander qui c'est et tout. Donc, il revient. Et moi, poliment, je lui dis, vous avez trouvé le Starbucks? Il dit, ouais, merci beaucoup et tout. Je dis, monsieur, excusez-moi, je suis désolé, mais je vous connais quelque part. Et il me regarde.
Marc Cuban.
Non, il enlève son chapeau. J'ai dit, Tony Nelson.
Ah, ben, tu vois, je n'étais pas assis, moi.
Tony Nelson. Et il fait, ouais, et tout. Et le mec, 5 minutes, hein. 5 minutes. Parce qu'en fait, il allait embarquer et il m'a posé quelques questions. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton rêve? Et tout. Moi, je lui ai dit, moi, je suis venu ici pour l'école, pour peut-être aussi jouer au basket à la fac. Et puis, voilà, je suis éthiopien, j'ai le passeport italien, j'aurai maintenant aussi ma carte de séjour américaine et tout. 5 minutes. Il m'a dit, écoute, donne-moi ton numéro de téléphone. Moi, en fait, je vais aller scouter. Et en ce moment, lui, il était assistant GM parce que son père était le coach et le président de l'équipe des Mavs au moment. C'était en 2005. Et il me dit, écoute, donne-moi ton numéro, je t'appelle quand je reviens.
Tu crois pas?
Je lui ai dit, ouais, c'est ça. Oui. Le mec, il va 3 semaines après, je reçois un coup de fil. Hey, Luca, Donny Nelson. Ça te dit quoi de venir chez moi ce soir manger? Et puis, je vais t'introduire à certains de nos scouts de l'équipe. J'ai dit, sérieux? Il fait, ouais, ouais. Ça te dit? J'ai dit, ouais, pas de problème. Ben, je t'envoie l'adresse.
Belle maison.
Ouais, assez bien.
Non, arrivé en taxi
pas,
quand même, non?
Non, je pensais, j'avais une voiture, mais une voiture, j'avais une Toyota. Mais
oui, ça, le problème.
Ouais, et puis, donc, tu vois, je vais là-bas. Mais tu sais, il avait pris un takeaway en plus, tu vois, c'était simple et tout. Donc, je rentre. Il y a deux de ses scouts à lui. C'était un Argentin qui, aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs potes. Il est toujours scout des Mavs. Il habite en Argentine. Et l'autre, c'est mon deuxième mentor jusqu'à aujourd'hui, qui est Amadou Galofal, du Sénégal, qui est le président de la BAL. Et donc, il m'introduit aux deux. Et après, c'était juste genre, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton plan? Moi, au moment-là encore, je voulais jouer. Donc après, j'ai joué au Global Games, juste après que vous avez fait votre camp là. Donc j'ai joué au Global Games, que Donny Nelson avait organisé. C'était un tournoi de U21, je crois. Et nous, moi, j'ai joué pour l'équipe africaine, la sélection africaine. C'est dans tous les jeunes africains qui étaient aux States, qui allaient soit au lycée, qui allaient partir à l'université pour jouer au basket. Un de mes anciens coéquipiers, c'était Franck Traoré, qui aujourd'hui, c'est un des boss de la NBA aussi en Afrique. Et j'ai fait ce tournoi. Après, j'ai réalisé qu'en fait, côté basket, jouer au basket,
ça va être dur.
Ça va être dur. J'étais un peu en retard aussi niveau talent comparé aux gars de mon âge parce que ce tournoi-là m'a fait vraiment réaliser ça.
Et comment tu t'es retrouvé au Mavericks?
Non, justement, juste après ça, Donny Nelson et Amadou Galofal m'ont demandé ce que je voulais faire. Est-ce que tu allais à la fac jouer? Et si c'était ça, ça allait être deuxième division, low major, des trucs comme ça, tu vois, ça allait. Mais après, j'ai dit, attends, les deux gars là, ici, ils sont allés à la fac, mais ils n'ont pas vraiment joué au basket au très haut niveau et ils sont des exécutifs.
Oui.
Je veux être comme eux. Donc moi, je leur ai dit, je veux être comme vous. Donc moi, peu importe ce que je dois faire, mais je veux être comme vous, je veux être GM, président d'une équipe NBA, et je fais ce qu'il y a à faire, quoi. Ok, ça te dit quoi si tu fais un stage avec nous, et puis tu vas à l'école et tout ? Pas de problème. Donc j'ai commencé en stage avec eux en 2005, saison 2005-2006. C'est parti jusqu'en 2008, puis après Bouna vient et il a besoin d'aide parce que son premier client c'était DJ Mbenga.
Oui.
Et mes mentors l'ont convaincu à bouger aux States avec sa famille. Et donc lui, qu'est-ce qui se passe ? Il avait besoin aussi de quelqu'un qui pouvait l'aider sur place. Francophone, avec tous ces...
T'appelles un chaperon,
une sorte de Huggy les bons tuyaux, quoi.
Exact, mais son assistant, tu vois, genre... Mais après, il y avait plein... On s'est bien amusé, genre, tu vois, c'était... Il y avait un bon programme, les gars venaient pendant l'été, les Adjiwanu, les Amarasi, tu sais.
Ma femme est venue à Dallas, elle
voilà,
est venue.
Tu vois, mais voilà, donc c'était super. Et justement, juste après ça, mon mentor a quitté en 2008-2009 pour justement être le chef de la NBA en Afrique. Et c'est comme ça que moi, j'ai été officiellement engagé par les Mavs en tant que scout. Et puis aujourd'hui, je suis avec les Jazz. Quoi. Voilà, c'est ça.
Et le petit passage aux Lakers, sympa quand même.
Super sympa. C'était 3 ans. Mais la différence, c'est qu'en fait, je n'habitais pas à LA. J'habitais toujours à Dallas. Donc,
okay. Ah oui.
Mais parce qu'en fait, côté logistique, ça avait plus de sens. Parce que tu sais, de Dallas, tu peux voyager partout dans le monde. Tu as les vols directs partout.
C'est plus simple que LA ?
C'est plus simple parce que LA, c'est...
C'est trop loin.
Tout à fond de l'ouest, tu vois, à l'ouest. Et puis alors que Dallas, t'es plus central. Et puis, t'as les vols directs, mais quasiment directs. Paris tous les jours, Allemagne tous les jours. Ou bien si tu dois aller en Afrique ou bien en Asie, tu fais escale directe quelque part ici en Europe. Et puis après, c'est un vol direct. Quoi.
Et à ton poste, t'as des relations avec les joueurs NBA ?
Ouais,
au quotidien.
Bien sûr, au quotidien.
Lauri Markkanen, c'est ton gars ?
Lauri, c'est mon gars, c'est marrant parce que Lauri, c'était un gars qu'on voulait drafter en 2017 quand j'étais à Dallas.
Ah oui.
Donc
vous pensez que Lauri Markkanen c'est le même profil que Dirk.
Exactement. Ouais. Parce qu'en fait 2017 aussi c'était là où Dirk était en train de. Oui. Là, on savait que c'était fini, c'était mort et qu'il allait prendre sa retraite dans quelques années. Et on a vraiment vraiment pensé que voilà parce qu'en fait c'était l'année que Franck aussi a été drafté, c'était 2017.
Luca Desta, j'ai une question encore.
Une dernière. Vas-y. On termine. Qui va être champion NBA
cette année? Ouais. Boston. Si tout va bien, Boston.
Très bien.
Toi?
Moi?
Il va dire Denver.
Non.
Ah.
Je veux dire Boston aussi.
Okay. Lucas, c'était passionnant. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton parcours également. Juste un mot, tu vas nous faire rêver, tu vas nous donner un nom de joueur de basket que personne connaît, mais qu'on va se mettre à suivre parce que toi, tu l'as déjà repéré. Non, mais un truc qui ne te met pas en difficulté, tu ne vas pas donner un tuyau aux autres. Dis-nous un joueur qu'il faut suivre, n'importe lequel.
Ouf.
Un Serbe, un Croate, un Portugais, un Américain, un Canadien, qui tu veux. Un mec qu'on ne connaît pas nous, Steve et moi. Steve, il les connaît, hein. Moi je les connais pas, hein. Mais lui il les connaît, attention.
Bon, je vais juste dire ce nom parce que j'ai vu un highlight ce matin. Karim Lopez.
Ok, c'est bon.
Karim Lopez.
Merci.
Très bien, allez. Merci beaucoup, Lucas.
Allez, les gars, merci.
RMC Basket Time.